un livre qui vous montre « La guerre sainte ne mène à rien ». C'est une mauvaise solution. Donc, si vous lisez de façon fondamentaliste, vous direz, voilà, Dieu est pour la guerre sainte. Si vous lisez bien le livre, avec tous ces clins d'œil, tous ces petits signes qu'il met de part et d'autre, vous direz, la guerre sainte est une mauvaise solution. C'est pas ça qu'il faut employer. Vous voyez ? Et donc, il faut pouvoir lire l'Écriture. C'est pour ça qu'on ne la lit pas seul. Il faut la lire en Église. Et avec des clés qui dépasse le petit passage ou le petit livre que je lis, et qui reprend toujours la totalité du message. Et quand nous voyons une incohérence dans la Bible, ce qui nous apparaît une incohérence, c'est généralement parce que nous n'avons pas bien lu. Ou que nous lisons le texte sans le rattacher à son contexte. Donc ceci est important, parce que s'il y a de multiples interprétations, il faut pouvoir les mettre sur la gamme, savoir où elles se situent. Ben, c'est notre travail.
Non seulement ça, mais on englobe la vie de Jésus et la vie des saints dans l'Église pour comprendre.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que nous disons aussi que je ne lis pas l'Écriture seule, je la lis dans la tradition. Lire l'Écriture dans l'Église, c'est la lire ensemble, mais à l'intérieur d'une tradition. Et dans la tradition, vous avez aussi des variantes. Mais il faut de nouveau tout regrouper jusqu'à faire la symphonie. Et c'est un long travail. Et c'est dans ce travail que déjà l'exégèse juive nous a placés. Que les pères de l'Église ont repris. La différence entre l'exégèse, celle-ci, des Juifs, et des pères de l'Église, c'est qu'ils disent que tout ceci doit être relu dans la personne de Jésus, qui accomplit toute l'Écriture. Hein ? Ouais, je n'ai pas redit ça parce que je l'ai déjà dit un certain nombre de fois. Mais enfin, ben oui, parce que ce sont ou bien des questions qui reviennent, ou bien des personnes qui n'ont encore jamais entendu cela, pour leur dire qu'on ne fait pas dire à la Bible n'importe quoi. Même si on ne la lit pas uniquement au ras des pâquerettes.
Oui, on distingue les sens accommodés, c'est-à-dire quand on lit en Église ce que l'Esprit suggère à chacun dans sa vie à lui, et qui ne contredit pas le sens littéral, mais qui est un peu en bordure.
Oui. Oui, oui, ce qu'on appelle le sens accommodé ou accommodatis, on dit parfois, hein, ça veut dire, moi ce que j'y lis, hein, dans ma situation, je le lis comme ça. Ce n'est pas faux, du moment que je n'absolutise pas. C'est toujours ça l'essentiel.
C'est la sauce, comme dit Julien.
La sauce, oui.
Sauce Julien.
Pardon ? La soupe, oui. Mais on ne fait pas n'importe quelle soupe. Hein.
C'est rare, difficile de rater une soupe. Hein.
Pardon ?
C'est difficile de rater une soupe.
De rater ?
Oui.
Si vous voulez lui donner un titre, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui unifie. Rien à faire. Alors. Ici, nous arrivons à un passage qui nous annonce la vie personnelle, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, la vie personnelle de Jérémie. Jérémie vit dans son existence ce qui se vit en Israël par rapport aux nations, et donc ce qui se vit d'une manière ou d'une autre dans chaque nation et pour tout le monde. Mais on le regarde, si vous voulez, dans sa singularité. Alors, vous allez avoir, à partir du chapitre 26e, vous allez avoir donc l'histoire de cette vie de Jérémie, mais qui va être précédée, en quelque sorte, d'un message de bonheur, d'espérance. Jusqu'ici, nous avons vu le malheur tomber dessus. Mais ce n'est pas tout, Jérémie. Dieu se faufile à travers ce malheur. Et il a un but, il donne un sens positif à l'histoire, comme à chacune de nos histoires. Et donc c'est tout ce passage-là qui fait au fond le centre du livre. Et l'importance d'un texte dans l'Ancien Testament, c'est toujours le centre, hein, le cœur du texte, où tout converge vers là. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie. Donc on vient, si vous voulez, un peu en arrière. Maintenant, on surplombe l'histoire. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour du temple du Seigneur. Normalement, il ne pouvait pas officier à Jérusalem. Donc, il enfreint déjà une règle, puisqu'il était
dans le
sacerdoce de seconde zone. À tous les gens des villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple du Seigneur, comme on voit aujourd'hui le vendredi, tous les musulmans qui viennent sur l'esplanade des mosquées, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. Ne retranche pas un mot. Peut-être. Écouteront-ils, voilà ce peut-être, écouteront-ils, et se détourneront-ils, chouve, chacun de sa voix perverse. Alors, je me repentirai, tu te repens, je me repens, oui, c'est toujours cette identification. Alors, je me repentirai du malheur que je suis en train de méditer contre eux pour la perversité de leur acte. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas en suivant ma loi que j'ai placée devant vous, en étant attentif aux paroles de mes serviteurs les prophètes, que je persiste à vous envoyer sans que vous les écoutiez, je traiterai ce temple comme silo et je ferai de cette ville une malédiction pour toutes les nations de la terre. Nous avons déjà vu cela, mais il le redit ici comme en résumé. Donc le temple sacré de Jérusalem disparaîtra comme le sanctuaire de Silo. Prêtres, prophètes et peuple entier entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans le temple du Seigneur. Blasphème, hein? Et quand Jérémie eut fini de prononcer tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire à tout le peuple, prêtres et prophètes se saisirent de lui en disant « Tu vas mourir. Pourquoi as-tu fait au nom du Seigneur cette prophétie ?» Dans la vie de Jésus, c'est détruisez ce temple, et en 3 jours, je reconstruirai un temple qui ne sera pas fait de main d'homme. Vous voyez comme le Nouveau Testament relie toujours l'Ancien. Tu vas mourir. Pourquoi tu fais au nom du Seigneur cette prophétie? Ce temple deviendra comme silo, et cette ville sera dévastée, inhabitée. Et tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie, au temple du Seigneur. L'altercation entre les prêtres et les prophètes et le peuple alors qui s'ameute. Apprenant ces événements, les magistrats de Juda, le Sanhédrin, montèrent du palais royal, et les gens de la cour évidemment, montèrent du palais royal au temple du Seigneur. Ils étaient un peu en bas, le plus haut c'était le temple du Seigneur. Au temple du Seigneur, et siégèrent à l'entrée de la porte neuve du temple du Seigneur. C'est là qu'on fait la palabre. Donc on siège, on fait le jugement à l'extérieur. Alors, prêtres et prophètes dirent aux magistrats et à tout le peuple, on rapporte, c'est la voix publique, on dit à l'un, qui dit à l'un, qui dit à l'autre, etc. C'est la mort que mérite cet homme, car il a prophétisé contre cette ville, vous l'avez entendu de vos oreilles. Vous lisez le procès de Jésus. Donc nous pouvons relire tout cela à partir de Jésus. C'est ce qu'a fait l'Évangile. Et tout ce sens, toutes ces semences d'Ancien Testament sont toujours présentes dans le Nouveau. Vous avez à peu près 2/5 du Nouveau Testament qui sont de l'Ancien. Donc ils ne sont pas tout à fait compréhensibles sans le contexte de l'ancien. Mais Jérémie répondit à l'adresse des magistrats et du peuple. C'est le Seigneur qui m'a envoyé annoncer contre ce temple et contre cette ville toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant donc, vous avez toujours ce « maintenant donc » également chez les autres prophètes, et vous l'avez chez Paul aussi. Il reprend ce langage. Maintenant. Donc, il y a dans cette histoire, il y a une nécessité, une exigence pour aujourd'hui. Maintenant donc, améliorez vos voies, nous avons déjà vu ça au chapitre 7, améliorez vos voies et vos œuvres, soyez attentifs à l'appel du Seigneur votre Dieu, alors il se repentira du malheur qu'il a prononcé contre vous. C'est, il y aura une relation, la relation sera rétablie. Pour moi, me voici entre vos mains. Vulnérabilité, fragilité du prophète. Me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semble bon et juste. Ça, c'est la véritable non-violence active. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, c'est du sang innocent que vous mettrez sur vous, sur cette ville et sur ses habitants. J'ai péché en livrant un sang innocent, dira Judas de Jésus. Car le Seigneur m'a bel et bien envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Le fait qu'il est envoyé, c'est qu'il doit toujours s'opposer. On n'y va pas de gaieté de cœur. Alors les magistrats et le peuple entier dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas la mort. Ce que disait Pilate également. Il faut relire à travers ce texte la passion de Jésus. Cet homme ne mérite pas la mort, du tout la mort, puisqu'il nous a parlé au nom du Seigneur notre Dieu. Notre Dieu. C'est que quelques-uns parmi les anciens du pays s'étaient levés pour dire à tout le peuple assemblé, mais Michée de Moréchette, le prophète Michée, qui était déjà venu avant, 100 ans avant, 200, qui prophétisait au jour d'Ézéchias, roi de Juda, a bien dit à tout le peuple de Juda, ainsi parle le Seigneur des armées, Sion sera une terre de la boue, Jérusalem un amoncellement de pierres, et la montagne du temple une hauteur boisée. Bon, il ne restera plus rien de Jérusalem ni du temple. Et c'est Michée qui a dit ça. Est-ce que pour cela Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont fait mourir? Il faut quand même remettre un peu les choses en justice. N'ont-ils pas plutôt ressenti la crainte du Seigneur et imploré sa face pour qu'ils se repentent du malheur qu'il avait prononcé contre eux? Quel est le vrai sens de la parole de Michée? Est-ce que c'était une malédiction ou un reproche qui fait avancer? Et nous, nous allons charger nos âmes d'un si grand crime? On va mettre à mort un prophète qui vient de Dieu? Vous retrouvez toujours l'évangile là derrière. Il y eut encore un homme qui prophétisait au nom du Seigneur. C'était Uriyahu. Yahou, Yahvé, et Uri, ma lumière. Uriyahu. Fils de Shemariahu, originaire de Kiryat Yarim. Kiryat Yarim, qui est à 12 km de Jérusalem, sur la hauteur au-dessus d'Abou Gosh. Il prophétisa contre cette ville et ce pays exactement les mêmes choses que Jérémie. Alors, le roi Joachim, avec tous ses officiers et magistrats, ayant entendu ces paroles, chercha à le faire mourir. L'autre prophète, qui dit la même chose que Jérémie. À cette nouvelle, Uriyahu, terrifié, prit la fuite et parvint en Égypte. Mais le roi Joachim envoya en Égypte Elnathan, fils de Akbor, accompagné de quelques gens. Ils ramenèrent Uriyahu d'Égypte, on le fait extrader, comme on dirait aujourd'hui, d'Égypte, et le conduisirent au roi Joachim, qui le fit frapper de l'épée et fit jeter son cadavre à la fosse commune. En même temps, il fait un exemple, mais comme Jérémie a probablement beaucoup plus de succès, dirions-nous, auprès du peuple, il ne veut pas trop se frapper Jérémie. Jérémie, lui, fut protégé par Achikam, fils de Shaphan, et Shaphan était quelqu'un qui était dans la réforme de Josias. Donc qui était pour la réforme de Josias et qui, en quelque sorte, protégeait Jérémie. Si bien qu'il ne tomba pas aux mains du peuple pour être mis à mort. On ne dit pas comment, mais peu importe. Donc voilà une manière pour les auteurs de justifier le bien fondé de Jérémie. Vous voyez bien. Je commence le chapitre 27, je ne crois pas que nous aurons le temps de le terminer, peu importe. On était au règne de Joachim. Maintenant, on se rapporte plus tard, une dizaine d'années plus tard, au début du règne de Sédécias, fils de Josias et roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Le Seigneur me parla de la sorte. Fais-toi des cordes et un joug. Hein? Un joug qu'on porte sur les épaules avec des cordes hein, pour porter les seaux ou bien les fardeaux. Donc fais-toi des cordes et un joug et mets-les sur ta nuque. Puis, envoie un message au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon, c'est-à-dire tous les voisins hein, qui en veulent souvent à Israël, par l'entremise de leurs envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Donc, les voisins sont venus à l'occasion d'une fête ou d'un rassemblement, hein, sont venus trouver le roi de Juda ou à l'occasion d'un complot, tout ça est possible, contre Babylone, pour essayer d'attirer aussi Sédécias dans ce complot. Profites-en, profite de l'occasion, ils sont là tous ces envoyés. Tous les premiers ministres qui sont venus, profites-en, va les voir. Donne leur un message. Charge-les pour leur maître de cette commission. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël. Parlez donc ainsi à vos maîtres. C'est moi qui ai fait, par ma grande puissance et mon bras étendu, la terre, l'homme et les bêtes qui sont sur la terre. Donc c'est le Dieu de la création. C'est ainsi qu'on peut parler à tout le monde. Aux païens, on ne parle pas par le Dieu de l'histoire, on parle par la création. Et je puis donner cela à qui je veux, puisque les peuples, les pays m'appartiennent, je peux arranger les populations sur la terre comme je le veux. Or, présentement, j'ai remis tous ces pays aux mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, autrement dit celui qui règne pour le moment. Mon serviteur, toujours. Hein. J'ai mis à son service jusqu'aux bêtes des champs. Effectivement, hein, le tribut qu'on envoyait au roi de Babylone, c'était des troupeaux, souvent. Les bêtes des champs, on les lui donne, il demandait 500 têtes de bétail ou 2000 têtes de bétail. Hein. C'est une manière de payer le tribut quand on n'a plus d'or. Toutes les nations lui seront soumises, ainsi qu'à son fils, à son petit-fils, jusqu'à ce que vienne enfin le temps de son pays. Mais c'est toujours pour un temps. Comme le dit l'Apocalypse, un temps, deux temps et un demi-temps.
C'est divisé par deux.
Un plus deux, plus un demi. Trois et demi. Trois et demi, c'est la moitié de sept. C'est la moitié d'une totalité. Donc c'est jamais la totalité. Jusqu'à ce que vienne enfin le temps de son pays, alors de puissantes nations et de grands rois la serviront. Ça, c'est le jeu. La nation ou le royaume qui ne se soumettra pas à Nabucodonosor, roi de Babylone, et n'offrira pas sa nuque au joug du roi de Babylone, c'est par l'épée, la famine et la peste que je visiterai cette nation. Alors vous voyez le petit Jérémie avec son joug sur les épaules, hein ? et ces deux sceaux ou ces deux ballots, je ne sais pas, qui arrive et qui remet le message à tous ces dignitaires qui sont venus de l'étranger.
Le chahut au G7 de l'époque.
C'est ça. Oui. SMS, hein, pour tout le monde. Donc, laissez-vous assujettir au roi de Babylone. Ça n'a qu'un temps. Voilà le message. Ne vous en faites pas, ça ne durera pas toujours. Jusqu'à ce que je l'ai livré entre ses mains. Et vous n'écoutez pas vos prophètes de vains songes creux, augures et magiciens qui vous disent « Vous ne deviendrez pas les sujets du roi de Babylone. » Ces mensonges qu'ils vous prophétisent. Le résultat, c'est qu'ils vous feront bannir de votre sol, que je vous chasserai et que vous périrez. Alors, si vous voulez garder la vie sauve, acceptez la négociation avec le roi de Babylone. Comme ça qu'on dirait aujourd'hui. Ne faites pas la guerre, ça ne sert à rien. Mais la nation qui offrira sa nuque au joug du roi de Babylone et lui sera soumise, je lui accorderai du repos sur son sol, oracle du Seigneur. Elle le cultivera et y restera. Et à Sédécias, roi de Juda, je parlais de la même manière. Je lui dis, un petit conseil d'ami, offrez vos nuques au joug du roi de Babylone. Soyez-lui soumis, ainsi qu'à son peuple. Alors vous resterez en vie. Pourquoi tenez-vous à mourir, toi et ton peuple, par l'épée, la famine et la peste, comme le Seigneur en a menacé la nation qui ne voudra pas se soumettre au roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles que vous disent les prophètes. Vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. Hein, vous sentez les deux parties là. Hein? C'est mensonge qu'ils vous prophétisent, car je ne les ai point envoyés, oracle du Seigneur. C'est le mensonge qu'ils prophétisent en mon nom. Le résultat, c'est que je vous chasserai et que vous périrez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Et aux prêtres, et à tout ce peuple, je parlais en ces termes. Donc il fait d'abord son petit mime, hein, il va trouver tous les émissaires de toutes les nations, il leur remet le message, il est toujours avec son joug sur les épaules, et aux prêtres, et à tout ce peuple, je parlais en ces termes. Ainsi parle le Seigneur, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes, qui vous prédisent ainsi, voici les ustensiles du temple du Seigneur vont être ramenés bientôt de Babylone. C'est mensonge qu'ils vous prophétisent. C'est Sédécias, hein? C'est entre 597 et 587. Donc c'est déjà après la première prise de Jérusalem, mais avant la seconde. Donc n'écoutez pas, hein? On a amené évidemment toutes les richesses du temple, le grand candélabre, hein, etc. Tout ça a été emmené à Babylone. Ça, c'est de l'or, ou du bronze, ça peut toujours servir. Hein? Eh bien, n'écoutez pas. Voici, les ustensiles du temple vont être ramenés de Babylone, c'est mensonge qu'ils vous prophétisent, c'est pas vrai. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous resterez en vie. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine? S'ils étaient prophètes, s'ils avaient la parole du Seigneur, ils intercéderaient auprès du Seigneur des armées pour que ne s'en aille pas à Babylone ce qui reste d'ustensile dans le temple du Seigneur, dans le palais royal de Juda et à Jérusalem. Si vous voulez quand même garder une petite partie, alors ne vous opposez pas au roi de Babylone. Car ainsi parle le Seigneur des armées au sujet des colonnes qui se trouvaient devant le temple, de la mer, c'est-à-dire de la mer d'Airain, c'est-à-dire où on lavait les victimes de la mer, des bases de l'hôtel, etc., qui étaient en grande partie en bronze, ou bien et du bronze souvent doré. Et autres ustensiles restés dans cette ville, ceux que n'a pas enlevé Nabucodonosor, roi de Babylone, quand il emmena en captivité de Jérusalem à Babylone, Jéconias, Joachim, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les notables de Juda et de Jérusalem. Donc il vous explique l'histoire. Oui, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans le temple du Seigneur, dans le palais royal de Juda et à Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone, où ils resteront jusqu'au jour où j'irai les chercher, où le Seigneur ira les reprendre. Oracle du Seigneur, alors je les ferai remonter et revenir en ce lieu. Autrement dit, ça prendra du temps. Vous êtes trop pressés, vous êtes impatients, et vous voudriez que tout soit déjà, que le roi de Babylone vous renvoie déjà tout comme cela. Alors évidemment, quand Saint Matthieu relit l'enfance de Jésus, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre les mages venant de l'Orient et rapportant, ainsi que le disent les pères de l'Église, rapportant les richesses, l'or, l'encens du temple et la myrrhe, donc tout ce qui servait au culte, hein, le rapportant, non plus dans le temple de Jérusalem, mais à Jésus qui devient le temple, le vrai temple de Jérusalem. Tous les pères de l'Église, hein, vous racontent cela. Et quand est-ce ce moment où Dieu ira les chercher? Eh bien voilà.
Ça, tu nous en veux pas dire.
On n'a jamais su ça. C'est pas nouveau, ça.
Ben voilà, on ne dit pas toujours. Il y a de belles choses sur l'adoration des mages, hein, quand vous lisez. Et c'est l'image qui revient chez Matthieu. Hein. Matthieu est un juif. Et donc, il a toujours ces symboles dans la tête. Alors, quand Jésus ne peut pas encore parler, il est infans. Une femme, ça veut dire un enfant, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Eh bien, qu'est-ce qui parle? Ce sont les prophètes. Alors, il va, hein, dans ces deux premiers chapitres, il va faire parler les prophètes sur Jésus pour dire qui il est. Et il va prendre donc, hein, cinq passages de prophètes, dont le dernier n'est pas dans l'Ancien Testament. Il va prendre cinq passages pour vous expliquer qui est Jésus. Et donc, ces deux premiers chapitres de Matthieu doivent être lus par rapport à l'Ancien Testament. Et alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, Jésus va en Égypte. C'est-à-dire, Jésus réassume tout l'esclavage égyptien et il va libérer son peuple comme Moïse a libéré. Un nouveau Moïse, si vous voulez, c'est indiqué en toutes lettres, comme un nouveau Moïse qui va libérer son peuple et lui donner sa loi, cette fois-ci, cette loi intérieure. Il va en Égypte, donc dans le sud, donc il convertit en quelque sorte l'Égypte, il la ramène à son père, et puis, il ne va pas en Mésopotamie, mais c'est la Mésopotamie qui vient à lui. Et il ramène tout en son enfance. D'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Et alors, le deuxième texte, pour les rois mages, nous allons le voir, enfin, le roi qui ne sont pas rois, mais enfin, nous allons le voir au chapitre 31e de Jérémie, c'est le massacre des innocents, une voix, c'est entendu dans Rama, chapitre 31e de Jérémie, et nous verrons son importance. Nous arrivons au centre du texte. Alors, il ne faut pas s'étonner si le Nouveau Testament, enfin, c'est-à-dire les apôtres et les premiers évangélistes, ben, qui connaissaient leur Ancien Testament en grande partie par cœur, le relisent à la lumière de Jésus. Ah, maintenant on comprend ce que, hein, et ce qui était dit ici dans le texte, ben, quand j'irai les chercher, je vous les ramènerai. Mais quand est-ce qu'il les a ramenés? On ne voit ça nulle part. Voilà. Comment a opéré entre prophète et prophète? Et tout à l'heure encore, hein, à l'Eucharistie, nous avions une parole d'évangile qui nous dit « Méfiez-vous des faux prophètes ». Mais c'est parfois nous-mêmes qui sommes faux prophètes à notre propre sujet. Et c'est toujours la difficulté. C'est pour ça que je vous parlais de notre relation à purifier sans cesse avec le Seigneur. Nous n'avons jamais fini de recevoir d'aimer. Recevoir d'aimer, c'est cela qui nous purifie vraiment. car l'amour qui vient de nous est toujours trop petit, il a toujours nos dimensions. Mais celui que nous recevons du Seigneur nous purifie. Et maintenant, nous allons avoir une altercation, un affrontement entre deux prophètes. Nous avons déjà vu deux prophètes qui étaient de bons prophètes, hein, Ourya et Jérémie, et un a écopé. Temporairement, Jérémie a été protégé. Maintenant, nous avons un autre prophète, Hanania. Hanania. Dieu a fait grâce, c'est la même chose que Yohanan. Jean, Dieu a fait grâce. Grâce de Dieu. Hanania. Cette même année, au début du règne de Sédécias, donc c'est là que nous nous situons, vers les 597 avant Jésus-Christ, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la quatrième année, au cinquième mois, le prophète Hanania, fils de Hatzour, originaire de Gabaon, un peu au nord de Jérusalem, parla ainsi à Jérémie dans le temple du Seigneur, en présence des prêtres et tout le peuple. Donc il y a des témoins. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug, vous vous rappelez, il s'agissait d'un joug, hein, le mime du prophète. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Encore 2 ans, et je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles du temple. Jérémie dit, ne vous en faites pas, tous ces ustensiles du temple, ils ne reviendront pas maintenant. Hein. Reposez-vous sur le Seigneur, ça prendra du temps. Il avait déjà parlé de 70 ans. Et l'autre dit, non, 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 dans 2 ans, tout sera ici. J'ai brisé le joug du roi de Babylone, encore 2 ans, et je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles du temple du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, en a enlevés pour les emporter à Babylone. De même, Yéconias, ou Yoyakin, fils de Yoyakim et roi de Juda, avec tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, je les ferai revenir, oracle du Seigneur. Oui, je brise le joug du roi de Babylone. Est-ce que je puis m'opposer à des situations qui me dépassent, qui sont nécessaires? Alors, le prophète Jérémie répondit au prophète Hanania, puisque hein, l'autre lui dit, c'est moi qui ai raison, devant les prêtres et tout le peuple présent dans le temple du Seigneur. Le prophète Jérémie dit, soit, qu'ainsi fasse le Seigneur. Moi, j'aimerais bien aussi que ça se fasse comme ça. Qu'il accomplisse les paroles que tu viens de prophétiser, qu'il fasse revenir ici de Babylone les ustensiles du temple du Seigneur, ainsi que tous les captifs. C'est un songe, c'est un désir profond. Cependant, écoute bien la parole que je vais prononcer à tes oreilles et à celle de tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps ont prophétisé pour beaucoup de pays et pour des royaumes considérables, la guerre, la famine et la peste. Au contraire, le prophète qui prophétise la paix, c'est quand s'accomplit sa parole qu'on le reconnaît pour un authentique envoyé du Seigneur. Mais nous vivons encore dans la guerre. C'est ça qu'il sous-entend. Alors ne prophétise pas trop vite la paix. Alors le prophète Hanania arracha le joug de la nuque du prophète, comme s'il était toujours en train de le porter. Hein. Il arracha le joug de la nuque, ce joug symbolique, hein, qui symbolisait le joug du roi de Babylone, hein, de la nuque du prophète Jérémie, et le brisa. Et Hanania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle le Seigneur, c'est comme cela, d'ici 2 ans, que je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'enlevant de la nuque de toutes les nations. Et le prophète Jérémie s'en alla. inutile de discuter avec lui, autrement dit. Or, après que le prophète Hanania eut brisé le joug qu'il avait ôté de la nuque du prophète Jérémie, la parole du Seigneur fut adressée à celui-ci. Et que la parole du Seigneur vient souvent après un petit décalage, hein, quand on a médité. Va dire à Hanania, ainsi parle le Seigneur, tu brises les jougs de bois, eh bien, je vais les remplacer par des jougs de fer. Car ici parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, c'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations pour les assujettir à Nabucodonosor, roi de Babylone. Elles lui seront assujetties et je lui ai livré jusqu'aux bêtes des champs. C'est vrai, parfois les événements ont tort, mais les événements sont les événements. Les Anglais disent qu'un fait est plus respectable qu'un lormère. Et le prophète Jérémie dit au prophète Hanania, « Écoute bien, Hanania, le Seigneur ne t'a point envoyé, et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, voici que je te renvoie de la face de la terre. Cette année, tu mourras, car tu as prêché la révolte contre le Seigneur. » Et le prophète Hanania mourut cette année même au 7e mois.
Quoi, il lui a lancé un sort.
Un sort, ah, oui, mais on fait des histoires.
C'est comme ça que nous voyons les choses. Quand est-ce que ça a été écrit? On voit bien que c'est une réflexion du prophète sur les événements. Il est mort cette année-là. Et donc, on considère que cette mort est un châtiment de Dieu. D'ailleurs, les sorts, c'est souvent comme ça aussi que ça se prononce. Hein. Et alors, donc, les gens ont été déportés. Nous avons vu que Jérémie dit, mais... Essayez un petit peu d'être réaliste. Pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire que de se soumettre à Babylone. C'est dur. Hein? Il faut subir des déportations. Mais c'est aussi un signe providentiel. Il ne faut pas toujours résister. Et comme vous êtes devenus les vassaux des Babyloniens, ben, vivez cette vassalité. Et alors, on groupe ici évidemment un certain nombre d'événements sur le sujet. Et il écrit une lettre aux exilés, à ceux qui sont partis. Dans le premier convoi, les captifs. Et c'est cette lettre aux exilés que vous avez ici. Maintenant, c'est raconté par peut-être Baruch. Je pense que celui qui fait la relation ici, c'est le prophète Baruch. Voici le texte de la lettre que le prophète Jérémie expédia de Jérusalem aux anciens en captivité, aux prêtres, aux prophètes et à tout le reste du peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. C'est pour montrer qu'il ne parle pas deux langages. Un langage pour les gens qui restent à Jérusalem et un autre langage pour les gens de Babylone. C'était après que le roi Yéconias eut quitté Jérusalem, donc lui avait été emmené, le successeur, le fils de Joachim, avait été emmené en captivité, avec sa mère, avec la reine-mère, les eunuques, les grands de Juda, et de Jérusalem, les forgerons et les serruriers. Hein, on voit ce que ça veut dire. Les leaders et les artisans. Elle fut portée par Éléasa, fils de Shaphan, nous l'avons déjà vu, ce Shaphan, qui était un des notables de l'époque de Josias, et qui protégeait Jérémie. Bon, elle fut portée par Élias, fils de Shaphan, et Gemaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone, auprès de Nabucodonosor, roi de Babylone. Donc, il y avait des rapports entre les deux. Normal, entre le vassal et le suzerain. Et donc voici la lettre telle qu'elle est rapportée par le secrétaire. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, installez-vous, plantez des jardins et mangez leurs fruits. C'est un déplacement de population, et il y en a qui résistent et qui restent, hein, comme ça a été le cas pour les Palestiniens, hein, habitant des tentes pendant des années et des années, puis on a construit près de Jéricho, là, les grands camps tout près de Jéricho et tout près de Bethléem, et de Samarie, de Naplouse. Donc, plantez des jardins, mangez leurs fruits, prenez femmes et procréez des fils et des filles, choisissez des épouses pour vos fils, donnez vos filles à des hommes, et qu'elles enfantent des fils et des filles. Et continuez, vivez. Vous êtes là, à l'étranger, mais alors vivez. Un petit peu comme les travailleurs étrangers font dans le pays qui les a accueillis. Multipliez là-bas, ne diminuez pas. Recherchez le bien du pays. Alors, il va plus loin. Recherchez le bien du pays où je vous ai déporté. Donc, vous êtes déporté, mais faites fructifier aussi le pays où vous êtes. Priez le Seigneur en sa faveur, en faveur de Babylone, car de sa prospérité dépend la vôtre. Car ainsi parle le Seigneur, c'est seulement quand seront à terme les 70 ans accordés à Babylone que je vous visiterai et que j'exécuterai pour vous ma promesse de vous ramener ici. La promesse existe, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais 70 ans à attendre, c'est quand même beaucoup. Hein, on préfère 2 ans, on préfère suivre Hanania. Hein. Car je sais, moi, le dessein que je forme pour vous, oracle du Seigneur. Dessein de paix et non de malheur, qui vous réserve un avenir plein d'espérance. Voilà, l'espérance qui pointe derrière la captivité. Vous avez des années difficiles à tirer, mais c'est dans une perspective d'espérance. Tikva. Alors, quand vous m'invoquerez et que vous viendrez m'adresser vos prières, je vous écouterai. Je vous écouterai quand vous prierez pour le roi de Babylone. Quand vous me chercherez, vous me trouverez. Pour m'avoir cherché de tout votre cœur, c'est-à-dire dans la vérité. Je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Je changerai votre sort et vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, oracle du Seigneur. Je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilé. Et tout le temps, c'est la même racine de revenir, 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 qui revient ici. Vous dites, il est vrai, le Seigneur nous a suscité des prophètes à Babylone. Et effectivement, Ézéchiel est parti dans le premier convoi des captifs et il a prophétisé à Babylone. C'est ce qu'il raconte, hein. Il raconte qu'il a été pris et il a été envoyé par les déportés, et que la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem a quitté le temple de Jérusalem pour aller rejoindre les exilés. De nouveau, c'est un des passages que reprend Saint Luc quand il montre Jésus, après sa résurrection, montant avec ses disciples sur le mont des Oliviers, et puis allant rejoindre la diaspora, c'est-à-dire l'humanité entière, sur le mont des Oliviers. Là où s'était arrêtée la présence du Seigneur et le fameux char, la Merkava, des premiers chapitres d'Ézéchiel. Vous dites, le Seigneur nous a suscité des prophètes à Babylone, mais ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas égarer par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins. N'écoutez pas leurs songes, de leurs rêves. Mais là, de nouveau, il y a un discernement à opérer. Il y a ceux qui disent, c'est demain ou c'est après-demain qu'on va rentrer dans le pays. car c'est faussement qu'ils vous prophétisent en usant de mon nom. Je ne les ai point envoyés, oracle du Seigneur. On voit bien que ceci est écrit après coup, hein. Car ainsi parle le Seigneur au sujet du roi qui siège sur le trône de David et de tout le peuple habitant cette ville, vos frères qui ne vous accompagnèrent pas en déportation. Il en reste ici. Le peuple est divisé en deux. Ainsi parle le Seigneur des armées. Me voici pour leur envoyer l'épée, la famine et la peste. Ceux-là vont y copier. Vous, vous êtes encore protégés à Babylone. Mais les autres, pourquoi? Mais parce qu'ils sont précisément dans la difficulté et qu'ils ne veulent pas se soumettre au roi de Babylone. Je les rendrai pareils à des figues pourries, si gâtées qu'on ne peut les manger, vous avez reconnu. Chapitre 24. Je les poursuivrai par l'épée, la famine et la peste. J'en ferai une horreur pour tous les royaumes de la terre, une exécration, un objet de stupeur, de raillerie, de dérision pour toutes les nations où je les aurai chassés. C'est qu'ils n'ont point écouté mes paroles, oracle du Seigneur, bien que je leur ai envoyé sans me lasser mes serviteurs, les prophètes, sans qu'ils les écoutent, oracle du Seigneur. Mais vous les déportez, que j'ai envoyé de Jérusalem à Babylone, écoutez tous la parole du Seigneur. Il espère quand même qu'on l'écoutera quelque part. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, au sujet d'Ahab, fils de Kotan.